Une manifestation passée ?
Nos reporters y sont allés.
Écoutez l'interview enregistrée
sur Radio Pont 97 FM.
Eh bien, bonjour à tous les auditeurs, les auditrices de Radio Pont. On continue de se promener parce qu'il se passe décidément plein de choses dans la région pontoise, plein d'événements culturels. Il y aura Métis, il y a eu la fête de la bière, il y a des festivals dans tous les coins. Les arts visuels aussi s'expriment, les arts graphiques, les arts plastiques sont là, au pôle culturel de Pont, à la distillerie. Moi, j'ai le plaisir de venir à la fin d'un moment dont on va essayer de vous parler. Je suis avec trois artistes qui ont passé la semaine dans les lieux. On va commencer par les présenter peut-être un à un, et puis on parlera ensuite donc du collectif, de ce qu'ils ont fait cette semaine et de ce qu'ils vous prévoient, parce que les auditeurs, les auditrices, il faudra sûrement sortir vos agendas pour noter quelques dates à ne pas manquer. On va commencer par toi, Stéphane. On va commencer par toi, Stéphane.
Donc Stéphane Roy, R2OY, c'est important, j'ai le luxe d'avoir deux O, il ne faut pas m'en enlever. Artiste plasticien et non accessoirement enseignant d'art appliqué au lycée de Pont. Voilà. Et je suis le numéro 3 du collectif OSB3.
OSB3.
Par ordre de taille, donc je suis le plus grand, c'est comme ça que j'ai eu mon numéro. Alors ma pratique... travaille beaucoup sur les notions d'apparition d'espaces qui sinon ne sont pas visibles. Voilà, comme j'ai dit, j'aime bien faire apparaître des lignes de force, des éléments qui n'existent pas, qui sont la géométrie de l'espace, des formations aussi par rapport à ma formation. Et donc sur cette résidence à la distillerie, puisqu'on a décidé de travailler aussi autour du fait que c'est une distillerie où la matière se transforme. Moi, je travaillerai sur l'évaporation.
L'évaporation, un premier sujet, un premier artiste. S'il vous plaît, présentez-vous.
Alors, bonjour, moi, je suis Chris Roper. Alors, non accessoirement également professeur d'art plastique à Saintes et plasticienne. Et je suis OSB2, par ordre de taille, toujours.
Alors, on n'a pas précisé, on a commencé par le plus petit ou par le plus grand,
Par le plus grand, on a commencé. OSB3 étant le collectif dont on va peut-être parler après. Moi, je crée, je pars des formes souvent naturelles, des feuilles, des formes assez rondes qui sont dans la nature et qui vont prendre des développements assez envahissants, on va dire, dans des espaces qui, comme la distillerie, proposent des formes et des lieux. Donc on fabrique un peu plusieurs lieux dans un même lieu. Et j'essaye de mettre en espace mes créations et de me relier à chaque fois avec la mémoire du lieu sur laquelle on travaille tous les trois et aussi se mettre un peu dans une dynamique de lien avec... avec tout ce qui est autour de soi.
Voilà. Tout ce qui vient à vous aussi, on en parlera peut-être
exactement.
Tout à l'heure aussi. On continue notre tour de présentation par l'OSB1 alors.
Voilà, vous avez compris le jeu. Le jeu, c'est donc par ordre de taille, la plus petite, mais peut-être pas la plus petite pour tout. Bon, voilà.
Par la taille au moins.
Donc, Dominique Jarty, également plasticienne et... professeur d'art plastique à Saintes. Je travaille, moi, ma spécificité, c'est de travailler sur des draps de lin récupérés. Ma technique a évolué, changé, s'est modifiée. Et disons que ma préoccupation, vraiment, du moment, c'est entre le teindre et le peindre. Avec ces draps donc, qui retiennent la mémoire des corps, la mémoire du temps, la mémoire des corps. Et donc ici, dans ce lieu de la distillerie, ça doit aussi rappeler la mémoire de ce lieu. Et peut-être des corps qui ont vécu, qui sont passés. Mon thème, toujours par rapport à ce que disait Stéphane donc, quand il disait donc, « s'évaporer », Chris recueillir et moi donc je suis s'écouler et le temps s'écoule dans les draps. de la naissance à la mort. Voilà.
Donc si je comprends bien, comment vous êtes tous les trois enseignants aussi, et ce collectif s'est créé comment? Par une rencontre plutôt du fait de vos professions communes ou du fait de vos activités plastiques? Vous vous suiviez déjà, vous vous connaissiez déjà avant de vous regrouper ici pour cette action?
En fait, il y a un peu de tout ça.
Oui.
Il y a un peu de tout ça, on se connaissait, on s'appréciait. Chris travaille avec moi dans le même collège.
Tout à fait.
Et en fait, tout ça s'est mis peu à peu en place. Nos pratiques ont quelque chose en commun. Et notre attitude par rapport à l'art a aussi quelque chose en commun. On cherche déjà, je dirais. La première des choses, c'est qu'on recherche, qu'on a une ligne qui est justement assez mouvante, n'est jamais pour exposer quelque chose de fini et puis voilà, ça s'accroche au mur. Ça, c'est pas notre truc. C'est qu'il faut que ça, j'allais dire, il faut que ça déborde, il faut que ça intéresse et que ça fasse participer le spectateur.
Il y a quelque chose du coup de la prise de possession de l'espace, donc de l'installation, de quelque chose qui se renouvelle selon le lieu, selon l'endroit, selon le moment.
C'est questionner nos pratiques respectives, c'est questionner notre façon de passer aussi notre état d'esprit, notre vision du monde, et c'est la remettre en question tout le temps pour nous-mêmes, qu'on soit, qu'on enseigne ou qu'on soit dans la posture du plasticien, on est tout le temps dans une sorte de remise en question permanente. Et c'est vrai que je pense que c'est un point commun qu'on a, cet état d'esprit qu'on partage pleinement. Et donc on est un petit peu des particules qui sont reliées, d'où l'idée de l'OSB comme et nom de collectif.
Le panneau de particules, voilà, il y a quelque chose qui nous relie et qui fait que peut-être on a une cohérence un peu comme l'OSB, ce questionnement. Et puis derrière ça aussi, le lien avec l'OSB qui est un matériau de construction qui à la base était vraiment un outil et puis qu'on retrouve dans la déco finalement, c'est que nous on travaille aussi beaucoup avec des matériaux qui n'ont pas une destination artistique au départ. On ne va pas trouver beaucoup de toiles, de bronze, d'argile,
de peinture à l'huile.
Oui, voilà. On va beaucoup travailler sur de la récupération. Alors moi, je sais que je travaille beaucoup avec de l'aggloméré, du contreplaqué, des restes de métal, des morceaux de barrique. Enfin, vraiment, parce que c'est vrai que autant j'ai envie de représenter des espaces qui n'existent pas, autant j'ai envie aussi qu'ils se matérialisent. Donc, qu'il y ait les matériaux, voilà, qui soient là derrière. Et c'est ce qui nous relie aussi, c'est qu'on se trouve bien à travailler ensemble, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes domaines de pratique. On a des choses très, très différentes à proposer. Et pourtant, elles ont des liens qui sont presque évidents sur ce côté, sur les matériaux, sur un travail de la couleur qui va aussi passer de l'un à l'autre dans nos réalisations. Du coup, voilà, c'est en ça qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment un lien qui existait, qui nous a semblé évident. Et la fois où on a exposé ensemble en novembre dernier à Sainte, les gens eux-mêmes avaient ce constat-là, sans qu'on soit insistant dessus.
Et ce constat de cohérence.
De cohérence,
d'équilibre,
complètement.
Entre les trois pratiques.
Et c'est lié aussi à la mise en espace où vraiment on travaille avec le lieu. Et non pas on arrive avec nos gros sabots et hop, on se pose là. Alors que là, on travaille vraiment, et d'où l'idée d'être en résidence, parce que ça permet justement d'être dans le ici et maintenant, et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut tirer des fils de notre pratique vers quelque chose justement qui va la rebooster aussi et lui donner tout son sens. Et il y a l'idée aussi, alors Stéphane parlait du matériau pauvre ou quotidien ou non artistique à la base. Et effectivement, pour Dominique, c'est le drap, donc quelque chose quand même qui va être à la fois ancestral, familial, de l'ordre de l'intime, mmh. et non pas de la noblesse artistique de l'histoire de l'art.
Mmh. Le drap est en lin et pas en soi.
Voilà.
C'est ça.
Et de mon côté, ça va être soit du papier huilé, soit du géotextile, que je vais travailler au chalumeau, que je vais gaufrer, que je vais trouer, que je vais un peu torturer et en même temps essayer d'en sortir quelque chose d'un peu transcendé et finalement de resacraliser des choses pauvres à la base et qui nous paraissent en fait pas si pauvres que ça.
Pour vivre cette semaine de résidence que vous venez de passer là à la distillerie, comment ça s'est organisé? Vous avez rencontré des personnes de la municipalité, le comité de pilotage, parce que ça permet aussi d'expliquer aussi un petit peu aux habitants la méthode, comment ça se fait qu'il y a des artistes, parfois des troupes de théâtre, parfois, on en parlait un petit peu avant, mais qui viennent occuper ce lieu-là pour y créer collectivement des choses et pour les retransmettre à la population.
Alors déjà, je pense qu'il y a sur les territoires, comme à Pont et comme ailleurs, des personnes qui sont un peu en éveil et en veille. Et nous, c'est par le biais de Marcel Daspe, mmh. qui est venu voir l'exposition à Saintes et qui a pensé que sans doute la démarche qu'on avait pouvait trouver aussi un lieu bénéfique, propice à notre travail ici, à la distillerie. Dans l'hiver, on a organisé la rencontre avec le comité de pilotage. Bon, puis après, le temps passe. Hein. Les réalités sont telles que on a fini par les rencontrer au mois de mai, je pense. C'était au mois de mai. Comité de pilotage, on a présenté notre projet, on a fait acte de candidature. Hein. Il a fallu qu'on défende le projet. Hein. C'était pas acquis.
Il n'y a
rien d'automatique et on entend qu'une municipalité, une structure veuille aussi savoir sur quoi il s'engage. Donc on a défendu le projet et puis on avait aussi des exigences dans le sens où on a bien fait entendre qu'on est des artistes plasticiens avec des nécessités techniques et que la création, soit effectivement, c'est pour nous, c'est une raison d'être. Mais ça nécessite aussi de se sentir soutenu par en face des structures qui comprennent l'importance de ce que c'est de proposer de la création dans une ville, dans une cité. Donc il a fallu aussi s'entendre sur des points techniques, des points financiers, voilà. Et ça a abouti. On a trouvé ce créneau, ça n'a pas été facile hein, de trouver des bons créneaux, parce que finalement c'est un lieu qui apparemment va être de plus en plus utilisé. Donc on a trouvé cette date-là et on s'est installé en début de semaine avec des horaires d'ouverture au public le matin, normalement, mais en fait c'est ouvert tout le temps.
Tant
qu'on est là, voilà.
Oui, et donc un des objectifs aussi de votre temps de résidence, c'était aussi d'aller à la rencontre des passants, enfin, ou que les gens, les habitants, les curieux viennent à votre rencontre et que vous récupériez, que vous collectiez une espèce d'histoire ou de mémoire du lieu.
Ça, c'est vraiment un axe, justement, de notre projet, celui qu'on a vraiment évoqué avec les personnes de la mairie, c'est-à-dire que on travaille, nous, une installation dans le lieu de la distillerie et on s'approprie le lieu, comme on disait, on fait effectivement vivre l'espace. Mais il y a aussi le fait de chercher la mémoire du lieu. Et chercher cette mémoire du lieu en cherchant donc les habitants, en cherchant ceux qui avaient pu travailler dans le lieu, ceux qui pouvaient témoigner. En cherchant des traces, des photos pour faire vivre l'histoire du lieu. Donc on a appris au fur et à mesure certaines choses. C'est pas facile. On commence à avoir des petits jalons, mais on dirait un peu que ce lieu a été, gommé. L'histoire de la distillerie a été effacée au profit d'une rénovation qui est vraiment très très bien. Mais le patrimoine industriel existe, est là, et c'est ça que finalement, dans une ville, ça doit aussi avoir un impact dans la ville et aux yeux des Pontois.
Des Pontois et des, voilà. Peut-être des plus anciens qui ont pu vivre ce lieu quotidiennement.
Surtout qu'il y a forcément des gens qui ont travaillé ici, qui ont des souvenirs, et c'est une génération qui est juste proche et qui est encore là. Mmh. Et souvent, ces villes où il y a eu un passé vraiment, enfin, une histoire ancienne, va convoquer des références médiévales ou même pseudo-médiévales, parce qu'il n'y a pas tant de choses médiévales ici. Il y a l'hôpital, on est d'accord, qui est classé, etc. Mais c'est vrai que ça reste un peu dans les clichés d'une histoire fantasmée, quasiment, alors qu'en fait, la mémoire proche qui nous touche encore paraît être complètement fantomatique.
Ouais, de ce patrimoine industriel qui est pourtant très très important, puisqu'on a déjà entendu l'histoire quand même de personnes qui racontaient « Oui, mais mon père livrait donc du raisin. »
Voilà, c'est ça.
Donc il y a vraiment un lien avec la terre du lieu, une empreinte avec la terre et une empreinte avec les habitants, l'histoire de leur vie. Et c'est ça ce qu'on voudrait faire passer dans ce lieu aussi.
Et étonnamment, c'est maintenant en fin de résidence qu'on commence à avoir...
Voilà,
c'est-à-dire que c'est en train de remonter à la surface. Ça a été enfoui, et à tel point qu'on a imaginé, à la fin de notre première journée où on a beaucoup cherché d'infos, on s'est dit on va être obligé de l'inventer, l'histoire de ce lieu. En fait, on va aller dans le travail artistique jusqu'à un travail de création d'histoire, parce qu'on ne trouve rien. Parce que aussi les gens finalement ne se rendent pas compte de l'importance que ça peut être pour une ville et pour une société, pour une population, de prendre en compte ce patrimoine historique qui n'est pas vieux, parce que finalement on a découvert que l'activité, fin d'activité, c'était 2005. Or on a l'impression que c'était il y a 50 ans que ça s'est arrêté, parce qu'il n'y a plus rien. Et là maintenant on finit par entendre des gens qui, si je connais peut-être un tel qui il y a longtemps m'a parlé d'eux. Et on s'est dit, ah, quel dommage de ne pas avoir eu cette matière avant, parce qu'on a créé, nous, en attendant. C'est-à-dire qu'on s'est lancé dans la création, on avait choisi nos axes de travail sur le thème de la distillerie, mais on aurait bien aimé avoir un peu des gens qui nous parlaient de ce qu'ils ont vraiment vécu, en fait.
Si je peux rebondir, ça me fait... On a, avec des gamins, on fait toute une série de reportages qu'on va diffuser bientôt à la radio sur les sources d'eau. Ils ont rencontré des sourciers, ils sont partis à l'enquête, à interviewer des gens, est-ce que vous connaissez des sources d'eau, etc., dans la région pontoise. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, moi je crois qu'il y a une histoire simplifiée, c'est-à-dire que l'histoire collective, elle a été simplifiée à quelques items, effectivement le donjon, le cire de pont, les pèlerins, nanana, et voilà, et point barre. Et ça suffit, d'une certaine manière, comme mémoire collective. Alors qu'en fait, la réalité des histoires et la réalité de l'histoire collective, du patrimoine collectif, est beaucoup plus riche que ça. Il y a juste à côté, juste derrière, et c'est pour ça que je fais ce lien-là, il y a un lieu qui s'appelle, il y a une source... qui s'appelle une cressonnière, où on faisait pousser du cresson, etc., à l'époque, et de retrouver. Et là aussi, c'est pas vieux, en fait. C'est pas si loin que ça. Et il y a des gens qui s'en souviennent très bien de ça.
Mais
cette part d'histoire commune-là, elle est très peu mise en valeur, en fait.
C'est ça.
C'est
l'idée de réactiver ça. Et d'ailleurs, quand le peu de témoignages. À chaque fois, est complètement minimisé par la personne qui nous en parle. C'est-à-dire, c'est pas très intéressant. Donc du coup, les gens eux-mêmes ont intégré que de toute façon, ce qu'ils faisaient, c'est pas la grande histoire. Et que...
C'est l'histoire populaire,
l'histoire du peuple. Il y a toujours une hiérarchisation qui arrive, alors qu'en fait, quand on est artiste, nous, on s'intéresse justement à ça. C'est toutes les petites histoires qui font la grande histoire, on le sait bien. Et on essaye, par la poésie aussi, d'y arriver.
Ça nous touche aussi parce que cette manière qu'ont les gens d'avancer leur histoire, leur connaissance de cette histoire-là, en disant « Oui, mais enfin, c'est pas très intéressant. » C'est une manière de dévaloriser ce qui est leur patrimoine à eux, c'est leur histoire à eux. Et du coup, on comprend aussi pourquoi, à côté de ça, des personnes peuvent se dire « Oui, mais l'art, c'est pas pour nous. » Alors que si, aussi, de la même manière que leur histoire est importante, elle a une vraie valeur, et elle doit être considérée comme riche, puisque c'est la leur, et bien de la même manière, l'art est aussi pour tout le monde. Et c'est un peu ce gap là, ce trou qu'il y a entre certains savoirs, certaines histoires et d'autres considérées comme populaires, dites populaires, qu'on voudrait qu'ils se rétrécissent quoi. Et à Pont, il y a plein de ponts, il y a encore des ponts à jeter.
Il y a encore des ponts à jeter. La peur de la culture avec un grand C ou de l'histoire avec un grand H, et que du coup les histoires populaires et les savoir-faire populaires se considèrent souvent avec des en minuscules, si on peut dire ça.
Mais ce qui était très étonnant, c'est que pour finir avec cette histoire de la distillerie, c'est que c'était à un tel point que il y a un moment, on s'est dit il y a un problème en fait de conscience collective, parce que on était à la médiathèque, on a regardé le fonds local, les livres sur Pont, il y a un chapitre sur le quartier Saint-Vivien, il y a un chapitre sur les distilleries de Pont, il n'est jamais fait mention
de celle-ci.
C'est fou, hein.
Alors qu'il y a pourtant.
On a eu l'impression de toucher un secret pontois, un non-dit.
Le doigt sur quelque chose. D'où
l'importance de ce travail-là, qui mériterait peut-être d'ailleurs d'être prolongé ou d'être continué.
Ah oui, sur le recueil des habitants.
Et dans le recueil. Oui.
Si les gens effectivement peuvent nous aider. À envoyer ces témoignages. Il faut dire que la distillerie, c'était aussi la distillerie Joula. Ça aussi, c'est important parce que c'est un nom. C'est pas rien en Charente-Maritime, la Charente, Joula.
Le moulin de Mirambeau, le lieu, c'est le moulin Mirambeau.
Oui.
C'était la distillerie Joula.
Voilà. Et en fait, c'est vraiment tous ces témoignages qu'on voudrait vraiment recueillir.
Et puis des photos.
Et des photos, si on peut. Enfin, toutes les traces sont possibles. Et ça correspond avec, finalement, notre collectif, il correspond avec cette espèce de recueil de témoignages et de mémoires. C'est-à-dire qu'on va prendre des matériaux qui, eux-mêmes, ont une mémoire. Et on travaille sur la mémoire du lieu. C'est une logique tout à fait simple.
En l'interprétant et en le restituant avec vos yeux à vous de plasticien. Revenons à ce temps en septembre, je crois, à partir du 10.
Alors, nous, on accroche le 10 et l'exposition ouvre le dimanche 11 jusqu'au dimanche 18 inclus. Et donc, avec dedans les journées du patrimoine, donc on va être encore plus dans l'idée de ce patrimoine-là. Ben, il est un vrai patrimoine de la ville et l'histoire est une vraie histoire qui appartient aussi à la ville. Donc, ça sera. Alors, pour l'instant, c'est le prévisionnel. Donc, on a des dates et des horaires qui sont des prévisionnels. La réalité fera son travail. Mais normalement, ça sera ouvert toute la semaine, donc à partir du 11. Donc, le 11, toute la journée. Ensuite, la semaine, ça sera plutôt en fin de journée, du 16h-19h. Et puis, le week-end des journées du patrimoine, 17-18, toute la journée. Ça sera ouvert et on sera là aussi pour pouvoir échanger. Et il sera toujours temps de recueillir. Des images, mais enfin si ça peut arriver avant les photos, ça serait bien.
Et si ça devait arriver avant, parce qu'on peut profiter de ce passage sur Radio Pont pour lancer l'appel, mais il faut donner une destination à qui. Les gens envoient leurs images, viennent rencontrer qui, contactent qui.
Alors, je sais pas, mais moi je pense qu'il faut que centraliser par le centre, le CS Pont des Seignes, c'est à Jacques Fleury, au directeur, qui lui nous transmettra en fait.
D'accord. Donc les habitants, les pontois, si vous avez des ressources, des histoires, des anecdotes, des photos, des mémoires de la distillerie Joulin à Pont, au 1 rue du Ponty, venez les ramener au centre social de Pont et à Radio Pont si vous voulez être enregistré et garder une mémoire audio aussi des témoignages, parce que parfois c'est des souvenirs qu'on peut raconter, mais qui n'ont pas forcément de matérialité derrière, enfin de photos ou d'objets particuliers. Donc on sera ravis de recueillir tout ça et de les transmettre au collectif, au SB3.
Très bien. On vous remercie.
Si c'est possible.
Donc le travail est encore en cours.
Donc le travail est en cours. En tout cas, les auditeurs, les auditrices, notez dans vos agendas. Donc du 11 au 18 septembre, il y aura, j'imagine, des affiches, des communications qui seront faites pour les horaires plus précis, d'ouverture, etc. Enfin, venez nombreux.
Communication institutionnelle, le Facebook de la distillerie, puisqu'il existe a priori. Il va y avoir les communications efficace.
Voilà, et sur nos sites respectifs et nos pages Facebook également.
Voilà.
Donc, voilà. Ah,
ça, non, ça je pourrais peut-être les mettre avec ce petit reportage et cette discussion-là. Je vais les noter ensuite et puis on mettra tout ça sur nos pages Facebook et sur nos réseaux sociaux.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup à vous. Bon travail, bon courage et puis belle rencontre avec à la fois un lieu, une histoire et des gens.